chercher un peu une idée. Pour terminer la prochaine fois, je vous en prie. Bien sûr. Non, mais la prochaine fois, alors, on va préciser. J'ai hâte avec la foule.
Ce soir.
Maxime.
Voilà. On va continuer. C'est bien ces formations, je trouve qu'on mange bien. Ouais, c'est ça. Là, je pourrais venir comme auditeur extérieur, externe la prochaine fois. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur et d'être incrédule? L'incrédulité, c'est difficile des fois à mesurer, mais la peur, je trouve que c'est une des quatre émotions de base, avec la joie, la tristesse et la colère. Hein. Donc elle colore joyeusement nos vies. Hein. Oui, si on peut dire. La peur. Quelle est la dernière peur que vous avez eue? Intéressant. Connaître nos zones d'ombre, j'appelle ça. Parce que si on connaît ces zones d'ombre, c'est là qu'on est souvent puissant. Parce que on a tous un peu des aspects lumineux de nos vies, mais derrière la lumière, il y a aussi souvent des zones d'ombre. Et quand on connaît ces zones d'ombre, on est beaucoup plus stable et beaucoup plus sûr, en fait. Parce qu'on peut veiller justement à ne pas laisser ces zones d'ombre nous prendre le dessus et puis prendre autorité dessus. Je voudrais juste faire une petite précision sur ce que dit le chapitre d'avant. Important, c'est qu'on a parlé du Saint-Esprit dans le sens, c'est vraiment cette vie de Dieu en nous, ok, voilà, que toutes les bonnes raisons qui font que c'est important d'entretenir et de s'ouvrir à cette vie-là. En même temps, n'oublions pas que c'était le thème du jour, mais la vie en Christ est aussi importante. La vie en Christ, c'est une vie d'incarnation. On incarne quelque chose, on est le corps du Christ. Hein. On est appelé à être des gens incarnés. Donc on parle bien de deux choses à vivre en équilibre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller tout dans le spirituel et la vie du ciel. Hein. C'est vraiment l'équilibre entre le ciel et la terre. Et finalement, cette vie en Christ, où on s'ouvre aussi à la vie de l'esprit et à cette connexion au Père. Voilà. Ok, c'est une question d'équilibre, justement. Maintenant, on va voir à la page 68, ces questions de peur et d'incrédulité. C'est une des forteresses dont on veut être libéré, justement. Quand on dit forteresse, il s'agit d'une manière de penser qui s'oppose à la vérité, qui s'oppose au caractère de Dieu et qui va nous malmener, nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Et il y a mention de six forteresses dans Vive Libéré, et là on voit la deuxième, la fois passée vous avez la colère, et là c'est la peur. Il y a des ressources dès la page 61, et là on est dans ce deuxième chapitre, page 68, pardon, et la peur et l'incrédulité. Donc là c'est vous maintenant, et puis bientôt vous serez comme ça. Voilà. Même pas peur, hein, comme on disait, même pas peur. Moi, des fois, ça m'arrive de dire, si la peur cherche à m'envahir, moi, je me centre en Christ, la colonne vertébrale bien droite, comme ça, les épaules relâchées, bon là, pas dit, mais même pas peur, voilà. Mais je le proclame en Christ, comme ça, au Christ, hein, uni à lui, même pas peur. Cela dit, de nouveau, voilà, s'il y a une falaise de 30 mètres et puis que vous avez la pensée qu'il faut sauter de cette falaise, si vous avez peur, peut-être que cette peur-là, il faut l'écouter. Là, on parle d'une peur qui est saine. Hein. Mais c'est la peur dont on parle, c'est une peur qui est liée à l'incrédulité. Et on va voir un peu comment les deux sont liés, finalement. Alors, la plupart d'entre nous ne réalisent pas à quel point la peur est profondément enracinée dans nos vies. C'est vrai qu'on vit dans une culture de la peur et même de l'angoisse. Bien sûr, il y a les nouvelles du monde qui nous entretiennent là-dedans. Une fois où le thème de la peur m'est venu d'une manière un peu surprenante, c'était une fois que j'ai été un peu plus malin qu'un autre chauffeur pour prendre la dernière place de parc qui restait libre devant la gare à Morges. J'ai pris une présélection tout à fait légale, hein, etc. Mais lui, il avait une grosse voiture de sport, puis il a fait... Puis moi, j'ai juste pris la présélection, puis voilà, je suis arrivé avant lui. Et le gars, il était chaud, quoi. Il était vraiment chaud, quoi. Et je me suis dit, mais faut pas que, j'espère qu'il va pas voir que c'est moi, quoi. Il est entré dans le même restaurant que moi, il a l'impression qu'il allait tout exploser, quoi. Il était fâché, quoi. Il a une grosse bagnole super puissante, mais il a pas réussi à gagner la course. Du coup, il y avait de la colère, puis on sentait une certaine violence. Du coup, j'avais un peu peur. Je dis, mais pour vous qui ne me reconnaissent pas, qui ne me reconnaissent pas, que c'était moi qui... Est-ce que vous avez une Volkswagen? Non, 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 moi je... Et puis, mais il y a des peurs comme ça, tout à fait, qui sont dans nos vies. Hein, et puis, vérifier si c'est juste, voilà, comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui est enraciné dans un comportement, une habitude qu'il va falloir discerner. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Cette peur dont on parle ici, elle peut être de plusieurs sources. Hein. Il y a le terrorisme, actuellement c'est très courant. Peur de la criminalité, peur du cancer, de la maladie, peur d'être jeté ou abandonné, peur de perte financière aussi. Et la peur, elle nous conduit à douter du caractère de Dieu, de sa puissance. Et c'est pour ça que c'est important de veiller à cela. Elle ouvre la peur à des comportements comme la manipulation, comme le contrôle, et je trouve intéressant, la déception aussi, l'exploitation. Des fois, c'est vrai qu'on va plus parler de manipulation, quelqu'un qui est manipulateur, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui exploite, quelqu'un qui est déçu par Dieu, qui est fâché contre Dieu, par exemple. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a sous-jacent à cela? Ben, c'est cette peur qui est là, et c'est cette incrédulité. Alors, le Seigneur désire nous libérer de la peur. Et comment? En permettant au Saint-Esprit de mettre en lumière les peurs dans nos vies. Quand vous avez une peur, ben, ce n'est pas forcément qu'il faut l'ignorer, comme je disais avant. C'est vraiment comme ces zones d'ombre que je disais, ben, considérez cela, parce que c'est le début du changement. C'est dire, oui, je reconnais qu'il y a de la peur dans ma vie. Et aussi, ben, c'est le Saint-Esprit qui ouvre déjà en mettant en lumière ces peurs. Merci Seigneur. Et aussi, en apportant nos peurs à la croix, par le pardon et l'affirmation de la vérité, et en permettant à Dieu de nous fortifier dans ces zones de peur, par la foi justement, et puis apprendre à agir dans l'esprit contraire. Quelles sont les racines de la peur? Alors dans 2 Timothée 1:7, ils disent « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des gens lâches ou des timides, par un esprit de timidité, un esprit qui nous rend forts, aimants et réfléchis. » Intéressant. Et on voit que la racine de la peur, il y a un peu deux racines, c'est qu'on ne connaît pas suffisamment Dieu. Je trouve intéressant, parce que quand on connaît Dieu, quand on connaît son amour, et ben finalement ça bannit toute peur. Mais il y a aussi cette peur qui est fondée dans l'incrédulité. On voit le lien entre la peur et l'incrédulité, parce que quelqu'un qui est incrédule aura de la peine à être confiant et aura peur. Donc, on voit la figure de Pierre, hein, qui est très impulsif comme ça. Il sort de la barque, il marche sur le lac. Et puis, tout d'un coup, il remarque que le vent souffle fort, que les vagues sont grandes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il prie. Peur, et il commence à couler. Voilà. Il a un moment de peur. Oui, il ne connaît pas encore bien qui est Jésus. Un moment de peur, oui, il a cette incrédulité. D'ailleurs, Jésus le dit. C'est l'incrédulité à la base parce qu'il dit « homme de peu de foi ». Il y a différentes traductions. « Ta foi est bien faible », lui dit-il, Jésus lui dit. « Pourquoi as-tu douté ?» Cette question, je la trouve incroyable. Il est au milieu d'un lac qui coule. Moi, je lui dis « bravo, t'as marché hors de la barque, quoi. T'es même le premier, t'es le pionnier, etc. Mais t'as douté, ta foi est... » Et le mot, c'est oligopistos. Pourquoi homme de peu de foi? Cette peu de foi, c'est oligopistos. Pistos, la foi, oligo, c'est comme oligo-élément. Littéralement, c'est un homme qui a une foi petite, un peu comme une graine, et qui est appelé à grandir. Il est encourageant, il est dans une culture de l'honneur, là. Il l'encourage, il ne méprise pas sa foi. Il dit, il est encore petite, et ce serait bien, elle va grandir d'ailleurs, elle va grandir. Donc, effectivement, pour lui, la peur qu'il a eue de se noyer là, était fondée dans ses doutes qui sont un manque de foi pour lui. Alors on peut bien s'identifier à la figure de Pierre par rapport à ces peurs qui nous habitent, par rapport à ce qui est juste, à ce que Dieu nous appelle à vivre, à être, à faire, à dire, à se positionner dans la grande confiance que Dieu est avec nous. Pas de doute, pas de peur, on va de l'avant. Le royaume de Dieu avance. Et on s'identifie à Pierre parce qu'on se trouve tout du coup au niveau du lac et on coule, on se dit « Seigneur !» tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Maxime, homme de peu de foi, de petite foi, ta foi est appelée à grandir. C'est bien que tu sois au milieu du lac pour ça. Moi, j'utilise toujours un paddle quand je vais au milieu du lac parce que J'ai une fois, elle me dit, allez, je vais traverser le lac. Puis j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, je me dis, ah, si tu as une attaque cardiaque, tu vas venir au milieu. Alors, je ne devrais pas penser à ça, c'est vrai, c'est un peu bête, hein, mais c'est un petit peu ce que j'ai pensé. Alors, je me suis dit, bon, j'ai quand même besoin d'un peu de ma bouée, des fois, qui traîne derrière, ou un paddle. Et puis, mais des fois, c'est vrai, dans notre tête, il se passe des trucs, on a des pensées, je ne sais pas vous, mais qui viennent, pac, comme ça, et ça nous freine dans notre mouvement. Et des fois, je me dis, mais alors, qu'est-ce qui est juste? Quel est le projet de Dieu? Est-ce que c'est juste que je fasse ça ou pas? Qu'est-ce qui est exercer le discernement et la sagesse? Qu'est-ce qui est juste? Et puis après, dire, bon, alors c'est juste, mais alors pourquoi j'ai toujours cette peur et j'ai ces doutes? Voilà, ben, je veux mieux connaître Dieu et je veux grandir dans la foi. Et c'est tellement important. Alors, peur d'être puni. Alors, c'est peur, voilà, déjà. Alors, reconnaître ces peurs dont on parle. Alors, il liste aux pages 69 et 70. 8 catégories de peurs, ils ont classé ça en 8 catégories. Une petite intro à ces catégories, c'est que on peut voir ces 8 catégories de manière un peu plus simplifiée en disant, en gros, l'humain, il est touché par 3 types de peurs. Il y a la peur de manquer, il y a la peur d'être vulnérable et il y a la peur de ne pas atteindre un standard. La peur de manquer, ça peut aller dans des enfin, souvent le besoin, c'est de se rassurer sans cesse. Et cette peur de manquer, ça peut s'exprimer des fois dans une grande dépendance au regard des autres ou ce que les autres pensent de nous. Et parce que la peur de vulnérable, c'est là que ça va plus dans la confiance dans les richesses ou dans ses compétences. Et puis la peur de ne pas atteindre un standard. Ou le peur de ne pas faire juste va conduire assez volontairement volontiers dans le perfectionnisme et puis voire même dans la passivité parce qu'après on a tellement ça nous met tellement la pression d'être parfait qu'on s'imagine tellement de choses à faire parfaites que finalement on fait plus rien. Alors voilà, déjà un peu donner un peu un overview, une vue générale. Mais maintenant si on regarde les titres, on aura du temps après un petit peu de temps pour parcourir ces listes personnellement. Eh bien, il y a la peur d'être puni, qui nous amène à être toujours dans un manque de paix, à être toujours un petit peu comme un peu angoissé ou troublé. Manque de foi, manque de joie. Et puis, il y a ce verset qui nous est rappelé, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. C'est l'amour qui vient, l'amour du Père d'ailleurs, qui vient à bout de beaucoup de ces peurs. Après, il y a la peur de l'homme, on le mentionnait dans la peur de manquer. La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. La peur de l'homme, ça c'est assez fort. Moi, c'est pour dire que c'est quelque chose que je suis en train de me débarrasser assez récemment, mais de manière, ou je sais pas, ça c'est toujours un processus la vie, mais de manière assez récemment maintenant, j'ai commencé à. Ça a commencé un truc assez drôle que j'ai réalisé l'été passé, que j'avais quand même pas mal de peur du regard des autres. J'ai posé un acte symbolique. Peut-être que Guy était témoin de ça. C'est quand il y a eu les Crazy Games l'année passée, c'est l'équivalent des Kids Games qu'on fait une année sur deux ici à Gland. Il y avait tous les parents qui étaient là, il y avait combien? 200 enfants qui étaient là. Il y avait du monde, quoi. Et puis à un moment donné, c'était la proclamation des résultats. La première équipe avait été médaillée, honorée, tout le monde applaudissait, toute la salle était debout, etc. Puis moi, j'ai dit, ben, je suis arrivé au micro, puis je présidais à un moment donné où je faisais là un peu le clown, puis j'ai dit, mais vous savez, c'est nul, vous êtes nul, j'ai dit. Alors là, ça a cassé l'ambiance, c'était quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est nul. Puis j'ai dit, pourquoi c'est nul? Parce que je pense que vous auriez pu faire beaucoup mieux. Alors là, dans leur cœur, je pense qu'ils ont tous vécu, les enfants en tête. Un moment d'injustice, de scandale, ils se sont sentis vraiment tombés de haut. Mais c'était intentionnel de ma part. C'est que je voulais leur dire que finalement, si vous voulez penser que votre valeur est dans la performance, vous avez rien compris. Et puis en même temps, moi, je démontais une idole ou cette peur de regarder les autres en disant, maintenant, je m'en fous de ce que pensent les jeunes, je m'en fous de ce que pensent les parents, je dis ce que je pense, et puis j'ai fait ça. Et puis bon, on avait fait tout un montage parce qu'en sortant, il y a quelqu'un qui me versait un pot d'eau gelée sur la tête. Et puis bien sûr, tous les enfants étaient morts de rire. Je l'ai bien mérité. Mais c'est des petites choses comme ça assez drôles, mais que j'ai fait de manière intentionnelle en me disant, maintenant, je vais dire ce que je pense. Et puis je vais m'en foutre, mais m'en ficher, mais quelque chose de grave de ce que pensent les autres. Alors pour certains, il faudrait leur dire, non, tiens compte un petit peu de ce que pensent les autres, voyez? Comprenez-moi bien. Puis il y a d'autres dire, mais fiche-toi de ce que pensent les autres, voyez. C'est un peu, c'est pastoral, voyez. Donc des fois, il faut se pasteuriser soi-même. Et la règle, c'est la suivante, c'est d'avoir quelques personnes de confiance qui nous encouragent, qui nous aiment et qui savent nous défier. Et les autres, on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Je pense que si cette règle est là, c'est bonne en fait. Et c'est ce que Jésus a appliqué avec les 12, si on regarde. Hein, et d'investir dans la vie d'autres personnes, mais pas non plus de vouloir plaire à tout le monde. Peur de l'homme. Attention, il y a un piège là et il est réel. Après, peur de l'insécurité. L'insécurité, l'avenir est incertain. C'est vrai. Et même le Deutéronome le rappelait. L'avenir est incertain. Oui, ben, comment on réagit à cette incertitude? Est-ce qu'on est nous-mêmes dans l'insécurité? Après, il y a la peur de vivre une vie selon le Nouveau Testament marquée par l'action surnaturelle de Dieu. Ça touche pas mal au rationalisme, à l'humanisme qu'on a vu avant. On a peur du surnaturel. Tiens, on va prier pour que les gens soient remplis d'esprit. Ou non, on va pas prier parce que si tout d'un coup quelqu'un est rempli d'esprit, mais ça va être surnaturel, et ça, non! Vous voyez, on va quand même pas vivre quelque chose... de l'ordre de la résurrection ici et maintenant, etc. Puisqu'il est dit que la puissance de résurrection vit en nous. Après le point 5, en page 70, c'est peur de l'échec. Alors la peur de l'échec, elle touche à cette peur. Pas mal de gens qui mettent leur confiance dans leurs compétences, mais des fois aussi dans cette peur de ne pas faire juste, hein, de ne pas atteindre un certain standard. Et la peur que les choses que nous craignons s'accomplissent d'ailleurs. Il y a pas mal de scénarisation qui se passe dans ces situations-là. Et Dieu dit à ces gens, ne crains pas, ne crains pas. On devrait avoir peur de rien, même pas de nos propres échecs. Je sais qu'il y a certaines personnes qui scénarisent énormément leur vie. Vous savez, c'est quelqu'un, on lui demandait à l'automne de sa vie, ou même à l'hiver, parce qu'il était sur son lit de mort, est-ce qu'il a eu une bonne vie? Est-ce que sa vie a été... difficile. Et puis il a confessé dans ce moment-là, il a dit j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves dans ma vie, beaucoup, mais heureusement, peu sont arrivés. Ouais. Et ça, je trouve ça tellement excellent, quoi. Alors c'est vrai que si on est dans ces peurs de l'échec, on est dans des scénarisations. L'humain est un peu connecté de telle manière depuis la chute, j'imagine que quand on scénarise, en général, on scénarise plutôt dans des choses un petit peu de tout ce qui pourrait arriver de mal. Ça, faut le savoir, voilà. Quand on sait ça, des fois, c'est bien de, je dirais, de planifier, oui, mais de trop scénariser, je pense que c'est pas forcément sage, à moins qu'on veuille avoir beaucoup d'épreuves dans sa vie. Qui peut arriver. Alors, après, il y a le point 6, qui est la peur de mauvaises nouvelles ou des circonstances, car rien ne pourra jamais... l'ébranler. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des fois des... Il y a la liste, hein, vous pourrez parcourir après dans un petit moment qu'on se donne pour voir si vous êtes dans ces peurs. Et puis, la peur que notre passé soit connu, une certaine honte aussi. Et cette honte nous enferme finalement dans un silence et nous laisse avec cette honte. Et la honte verrouille finalement la peur. Hein. Il faut pouvoir toucher cette peur avec ce verset. Ne sois pas effrayée car tu ne seras plus honteuse et ne sois pas confuse car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Il semblerait que pas mal de filles et de femmes soient touchées par la honte et que ça a été le fruit aussi d'un manque de des pères qui établissent les filles dans leur identité. Et une des conséquences de ça, c'est la honte. Et comme papa, moi, de trois filles, ça m'a touché, bien sûr, d'apprendre ça. Mais comme homme aussi, de réaliser que le fait que je n'ai pas été établi par mon père dans qui je suis, j'ai été établi dans ma performance, alors dans mes capacités. Oui, alors ça, oui. Oui, bravo. Mais dans qui je suis, alors ça, pas du tout, ça a aussi des conséquences. Qui va se manifester peut-être plus dans la performance chez l'homme. Chez la femme, apparemment, il y a la honte. Après, je ne dis pas que c'est noir ou blanc, ça se mélange certainement, mais en tout cas, cette honte, je trouve joli que ce soit adressé au féminin, cette parole d'Ésaïe. Après le chapitre 8, peur soudaine et irrationnelle, qui viennent toujours de l'ennemi. L'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Après, on a dit avant que la peur, elle est liée... à l'incrédulité. On va voir l'incrédulité, on parle 71 dans ce qu'il a d'un peu plus spécifique. C'est que cette incrédulité, elle peut se manifester pour la plupart des chrétiens de plusieurs manières, mais il y a deux grands axes. Il y en a un qui va plus dans l'orgueil, un autre qui va plus dans l'incrédulité ou la... je ne sais plus maintenant, c'était... Je vais prendre le fil. En tout cas, il y a plusieurs racines, on va le voir ensemble. Alors déjà, il y a... Extérieurement, c'est des gens, des fois, qui sont dans la précaution. C'est pas que je suis incrédule, c'est pas que j'ai peur, mais je prends des précautions, je suis prudent, je suis réservé, vous voyez. On met pas le mot peur dessus, on met d'autres mots. Et je me dis, mais alors, ok, peut-être que c'est une saine précaution, que c'est quelqu'un qui est réservé dans son tempérament, peut-être que c'est quelqu'un qui est prudent, et c'est bien. Mais soyons vigilants, discernons spirituellement, est-ce qu'il n'y a pas de la peur dessous. Et si c'est de la peur qui est dessous, il y a de l'incrédulité, il y a une mise en doute de la parole, de l'œuvre et du caractère de Dieu. Et justement, cette incrédulité, elle peut être soit craintive, soit rebelle. Voilà, c'est les deux axes. C'est, l'incrédulité, on peut l'avoir comme craintive ou rebelle. Quand elle est rebelle, elle a ce côté de l'expression beaucoup dans le réalisme, l'intellectualisme ou le bon sens. On s'appuie beaucoup sur le bon sens. Et on entend d'abord, moi j'entends des fois cette phrase un peu différemment maintenant, c'est une question de bon sens. Mais vous avez remarqué le bon sens, il semble qu'on n'ait pas tous le même bon sens. Hein. Mais la personne que t'elle dit que c'est le bon sens, voilà, tout est dit, je sais, voilà. Je sais et c'est comme ça, voilà, bon, d'accord, super. Et c'est souvent derrière, il y a un peu de la peur qui se cache, parce que si on discute un peu de manière profonde, on réalise qu'on n'a pas tous le même bon sens. Et que finalement, la personne voulait un peu sécuriser en disant « c'est le bon sens, c'est comme ça que ça va marcher, puis on fait comme ça, puis ça va vachement me sécuriser si vous faites comme ça, parce que je sais que ça va marcher, et puis il y a pas mal de, ouais, du contrôle finalement, et puis des fois même de la manip et tout ça. » Et de l'orgueil, comme on l'a dit avant. Maintenant, il y a aussi l'incrédulité qui est fondée, plus motivée par la peur. Elle peut se manifester par des mécanismes d'autoprotection, semblables à ceux qui sont causés par l'insécurité et l'infériorité. C'est l'histoire de l'enfant qui marche sur un muret, puis on le voit marcher, et puis là on se dit il va s'encoubler et il va se massacrer la tête et puis il va falloir faire toutes les dents. Mais s'il marche par terre sur le bitume à plat aussi, là on n'a pas peur. Enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Tout d'un coup il y a une espèce de crainte qui est là, qui se saisit de nous et qui fait qu'on se dit mais avant là il marche sur le trottoir comme disait, jamais on se dit il va tomber. Mais là, parce qu'il est sur un muret, tout d'un coup, là, il va tomber. Voyez. Alors, c'est des choses comme ça qui, des fois, peuvent se saisir de nous. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la main à l'enfant qui marche sur le muret, parce que, voilà, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui, c'est la question de la motivation du cœur qui est là, et de, justement, de ne pas laisser cette peur nous gouverner de manière subtile. Parce que si on est gouverné par la peur ou par la crainte ici, on va bloquer toute l'action de Dieu dans nos vies. On ne va pas pouvoir grandir et faire grandir. Alors voilà un peu ces grands axes. Avec la foi s'oppose à soi, à cette incrédulité. C'est croire en Dieu, croire que Dieu agit et agir en conséquence. J'aime bien cette phrase, elle est en bas de la page 71, colonne de gauche. Croire que Dieu agit et agir en conséquence. C'est ce fameux psaume qui dit, Ésaïe, quand il dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Je ne sais pas si vous connaissez cette parole. « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est très puissant, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est croire que Dieu agit. Et parce que je crois que Dieu agit, je peux rester dans le repos, confiant. Je fais rien parce que Dieu agit. Et en même temps, c'est pas que la confiance qui est dans le repos, mais c'est aussi le calme, l'action calme. Je suis aussi dans l'action, mais calme, parce que justement, je coopère avec Dieu. Je suis pas seul. Et c'est parce que je coopère avec Dieu et que je sais que je suis pas seul que je peux avoir cette action calme et ce repos confiant. Vous voyez un peu les équilibres divins dans lesquels Dieu nous emmène en nous mettant dans la confiance. Et puis, ça, la fin qu'on ne dit jamais, hein, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est ça. Est-ce qu'on veut... Si on est stressé parce qu'on est incrédule ou si on est dans la peur, j'ai compris une chose de Dieu aussi, c'est qu'il ne veut pas nous enlever cette peur ou ce stress, si on ne le veut pas. Dieu est un gentleman. Et moi, ça m'est arrivé de dire à des gens qui sont très stressés, puis qui m'expliquent pourquoi ils sont stressés, puis qu'ils finissent par me stresser moi-même, d'ailleurs, ou me mettre dans l'activisme moi-même. Des fois, c'est assez rare, mais une fois, je leur ai dit, mais tu sais, si ton stress, tu veux le garder, moi, je ne veux pas te le prendre, hein, je te rassure. Parce que des fois, il y a une espèce d'agitation qui peut être la mienne aussi. Mais c'est vrai que des fois, que moi-même, je suis stressé pour parler de moi, en fait. Je me dis, ben, si je suis stressé, des fois, je dois me poser la question, mais Maxime, est-ce que ce stress que tu vis maintenant, est-ce que tu n'es pas en train de le soigner, en fait, plutôt que vouloir t'en débarrasser? Voilà, c'est un peu peut-être une question de la pastorale, des fois aussi. Voilà, ça c'est dit. Quels sont les fruits de l'incrédulité? Et, page 71, colonne de droite. Alors c'est intéressant de lire ces fruits pour vous finir de vous convaincre que c'est important de se débarrasser de l'incrédulité. Et après, on prendra un temps de 5 minutes de silence, vous puissiez parcourir les listes qui vous aideront à discerner s'il y a de la peur dans votre vie ou de l'incrédulité, avant qu'on puisse terminer par la prière. Alors, ces fruits de l'incrédulité, quelles sont les conséquences? C'est qu'elles entravent la manifestation de la présence de Dieu. Elles nous conduisent à nous sentir offensés, d'abord par Dieu et ensuite par ceux qui lui obéissent. Alors, peut-être préciser, entraver la manifestation de la présence de Dieu, comprenez que c'est vraiment ce côté « je ne l'ai pas voulu ». J'ai pas voulu me débarrasser de mon stress, par exemple. Je veux rester dans mon activisme, action non calme, je dirais. Ou je veux pas entrer dans le repos, confiant que Dieu agit aussi. C'est une manière de fermer la porte à la présence de Dieu et à sa collaboration. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose de puissant là. Une prise de conscience en disant, mais cesse ça, il faut que ça cesse. Et c'est une révélation que Dieu nous donne aussi. Ensuite, le deuxième point, elle nous conduit à nous sentir offensés d'abord par Dieu et ensuite par ceux qui lui obéissent. Waouh, ça aussi c'est carabiné. Mais quand on n'a pas confiance en Dieu, on peut se faire vite influencer par les circonstances. Il suffit qu'il y ait quelque chose de négatif qui arrive dans notre vie et puis on finit par être... Quand on a la peur ou l'incrédulité, vraiment la racine, c'est qu'on va être en pétard contre Dieu. On va dire, mais Dieu, tu es contre moi. Et Dieu nous dit, il chuchote de sa douce voix, puissante et bienveillante et sage, « Je ne suis pas contre toi, je suis avec toi. » Puis des fois, il le répète plusieurs fois, « Je ne suis pas contre toi, je suis avec toi. » Mais ça, c'est pour que tout d'un coup, la foi grandisse, la petite foi commence à grandir. Hein. Pourquoi? Parce que je pensais que Dieu était contre moi, vu les circonstances. Et je m'appuie plus sur les circonstances que sur ma foi en Dieu, ses promesses, la parole, son caractère. Après, les fruits de l'incrédulité. Elle nourrit le scepticisme. Elle étouffe la vie de prière. La phrase typique, l'incrédulité se parle à elle-même, la foi parle à Dieu. L'incrédulité se parle à elle-même, la foi parle à Dieu. De nouveau, l'incrédulité nous coupe de la relation à Dieu, fondamentalement. Et fait qu'on se parle à soi-même, parce que soit de manière incrédule, en disant t'es seul, débrouille-toi tout seul, tu vas jamais y arriver, soit de manière un peu rebelle, Dieu, t'es contre moi, etc. Oui, ça nous coupe d'une coopération à Dieu et d'une paix que Dieu veut nous donner. Elle nous rend forcément instable. Hein. Cette instabilité est liée que, justement, qu'on est sujet beaucoup aux circonstances. Elle nourrit une attitude critique. Ça peut être contre Dieu, ça peut être contre même critique envers ceux qui placent leur foi en Dieu. Hein. C'est des fois des gens blessés, des blessés de la vie qui finissent par même être cyniques des fois dans leur humour parce que c'est une blessure non guérie. Cynique vis-à-vis de ceux qui placent leur foi en Dieu. Ouais, tu verras bien, attends, tu verras ce qui va te venir tomber dessus. Et puis, elle nourrit donc tout ça, cette attitude critique. Nous insensibilise aussi au Saint-Esprit, empoisonne les autres, hein, ça, bien sûr ça empoisonne les autres quand on commence à être incrédule, elle encourage l'orgueil et la supériorité, elle met en doute la parole de Dieu et son caractère, elle décourage les autres et freine leur foi, et puis bien sûr tout ça attriste le Saint-Esprit, hein, la colère, la désapprobation, la déception de Dieu, elle nous empêche d'accueillir la présence et l'action du Saint-Esprit, elle nous conduit à vouloir contrôler les choses. Moi, le contrôle, c'est quelque chose que j'ai explosé il y a 5 ans. Et puis, je réalise que je l'ai explosé avec ce proverbe. Je dis pour ceux qui se sentiraient concernés par ça, je ne m'appuie plus, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais fais pleinement confiance à Dieu et il aplanira tes sentiers. Ce côté de s'appuyer sur sa sagesse plutôt qu'en Dieu. Ça, j'ai dû vraiment l'apprendre et je l'ai appris par moyen d'une chaise aussi. Ça, je vous le fais aussi. Parce que des fois, ça prend du temps à se démonter. C'est que quand je suis dans un comité, vous me verrez dans des comités si on a l'occasion de siéger ensemble, c'est qu'il y a des moments où je me mets en arrière sur le siège, comme ça. Alors, en général, je suis en train de prier. C'est pas que je vous écoute pas, mais je prie en général. Et puis, je suis en train de dire, en général, c'est une prière du type, je ne m'appuie pas sur ma sagesse, mais je fais pleinement confiance à Dieu et il aplanira les sentiers. Parce que dans une discussion, dans un comité, moi, en général, je suis assez actif, comme ça. Puis, il y a des moments où je vois pas comment faire, et puis ça pourrait vite me stresser. Alors j'apprends à dire, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force, et je le veux. Donc maintenant je me mets en retrait, les Suisses allemands disent Hinterlegen, et je reste là, dans la présence de Dieu, en me disant, je reste au repos, dans la confiance, parce que je sais que je ne suis pas seul à agir, parce que Dieu agit aussi. Il agit en tant que Dieu, mais il agit aussi au travers de mes frères et sœurs, on va trouver une solution. Mais ça, il m'a fallu, il y a 5 ans, j'ai commencé à démonter ça, mais il m'a fallu trouver des attitudes pour prier sans cesse dans mon action même, de manière à éviter de laisser le contrôle dominer sur ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donner moyen de devenir quelqu'un de priant, qui pratique la présence de Dieu dans son action même. Et chacun, vous trouverez vos trucs par rapport à ça. On évoquera quelques pistes concrètes aussi après la prière. Ça, c'est important par rapport à ne pas vouloir contrôler les choses et comprendre que le contrôle est un fruit, un comportement dont la racine ou dont voilà, racine, voilà, disons le tronc dans l'image qui est donnée dans le cours. Les fruits, c'est des comportements. Le tronc, c'est, je dirais, la forteresse, hein, de la peur et de l'incrédulité, cette forteresse de la peur et de l'incrédulité génère des comportements, et un des comportements, c'est le contrôle, comprenez? Alors on peut bien essayer de traiter le contrôle, mais tant qu'on n'a pas allé jusque à traiter la forteresse de la peur et de l'incrédulité, on va avoir de la peine à progresser. Alors voilà un peu, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Après, on va parcourir les listes des pages 69 et 70 de la peur, et puis la liste aussi de la page 71, reconnaître l'incrédulité. On va avoir ce temps justement de discernement où on peut demander aussi au Seigneur de nous sonder et de pénétrer notre cœur, nous examiner, pénétrer nos pensées, les pensées qui me bouleversent, qui me préoccupent profondément, qui sont des attitudes profondes aussi, hein, que Dieu veut sonder, veut pénétrer avec son regard bienveillant, encourageant, défiant aussi. Et puis, Seigneur, considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité, la vie pleine que Dieu veut nous donner et qui nécessite de se débarrasser et de démonter ces manières de penser qui s'opposent à la vie, justement, au caractère de Dieu, à la vérité. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on parcourt ce questionnaire? On va prendre un temps pour parcourir ces listes et puis après on priera ensemble pour démonter la peur. Prière ensemble. Si la présidence est OK, je regarderai aussi avec Guy.
Oui, peut-être donner l'indication de comment les parcourir parce qu'il n'y a pas le temps de tout parcourir.
Oui.
Il y a peut-être une tête de chapitre
oui. Alors,
dans laquelle on se sent
oui.
attiré parce que là, c'est là où j'ai mon combat.
Alors, je pense que c'est une bonne suggestion. Hein, on les a parcourus avant. Hein, c'est 8 têtes de chapitre sur les peurs et puis l'incrédulité. Si vous êtes tilté sur un des éléments, ben prenez cette en tête de chapitre et parcourez, effectivement. Effectivement, Dieu fait une chose après l'autre, il fait pas tout en même temps.
fonctionner.
Vous arrivez à, vous avez pu un peu cerner. Bien sûr que c'est des survols et puis ça mérite d'être repris gentiment des fois à la maison. Et puis ce soir, c'est une première étape aussi. Après, il y a d'autres étapes qui se font. Le plus important ce soir, c'est que vous puissiez aussi identifier des domaines où il y a des fragilités. Après, ne pas regarder à regardez à Jésus finalement, regardez à Jésus pour faire le pas de foi qui vous appelle à vivre et puis vous réjouir de ce que Dieu, ça ouvre à ce que l'œuvre que Dieu peut faire et peut seul faire dans vos vies. Et c'est le début de quelque chose, ça va continuer. Parce que la confiance grandit et puis après ben, les peurs diminuent aussi comme ça. Dans la prière que je vais vous proposer, c'est une prière qui a été rédigée par une personne qui a identifié qu'elle avait cette forteresse, puis elle a rédigé une prière basée sur les quatre parties de Vivre Libéré. Ces quatre parties sont les suivantes, c'est reconnaître, résister, remplacer et recevoir, les quatre R. Mais c'est vrai que chacun pourrait, concerné par cette forteresse-là, pourrait écrire sa propre prière, mais je trouve des fois intéressant de suivre des modèles. Ça permet de prier ensemble et puis de développer une vie de prière qui est de plus en plus pointue. Pour comprendre comment prier, il y a quelques ressources qui sont données dans le manuel. Il y a déjà la page 72, quelques pistes qui sont données pour être affranchi de la peur et de l'incrédulité, qui reprennent ces quatre mots-clés de reconnaître, résister, remplacer, recevoir, en disant qu'il faut reconnaître le mensonge qui a permis à la peur de s'enraciner. Il faut prendre des décisions aussi, d'haïr les péchés de la peur et de l'incrédulité avec une sainte haine. Pourquoi haïr cette peur et cette incrédulité? Parce que souvent, ça conduit à des comportements qui sont pas sains. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de trancher et de se positionner, prendre des décisions. Confesser tout péché spécifique en lien avec la peur et l'incrédulité, c'est toujours reconnaître, hein. Et puis après, renoncer dans le sens renoncer à la peur et l'incrédulité, et puis agir dans l'esprit opposé, c'est le remplacer, et puis recevoir l'amour de Dieu. Par rapport à la peur, on l'a dit au début du cours, c'est essentiel de recevoir l'amour du Père, et de méditer, de passer du temps aussi dans cette sagesse des Écritures qui dit que Dieu nous aime d'un amour éternel, et de s'imbiber de cela. Et puis justement de remplacer tout mensonge par les promesses que Dieu nous fait. Alors, il y a aussi des versets qui viennent nous toucher profondément, des vérités, des promesses, comme je disais. Elles sont faites mention aux pages 95 du cours, où il y a des promesses qui touchent justement à la peur et la crainte, au bas de la page 95. C'est « Je ne crains pas, je me confie en l'Éternel ». Et il y a aussi, à la page 98, des mêmes promesses qui sont faites face à l'incrédulité, qui peuvent nous interpeller, nous toucher, des promesses qu'on peut proclamer avec foi et qui sont comme une transaction spirituelle, hein, qui ouvre à ce que Dieu peut seul faire, transformer nos cœurs, vivre le salut. Tout ça, finalement, nous conduit à pouvoir adresser une prière à Dieu. Comme je disais, ce sera plus tard votre prière, mais en même temps, je pense que c'est bien d'enclencher déjà cette prière ensemble, et puis elle va être affinée, et puis ceux qui sont concernés peuvent prier avec moi cette prière, et puis peut-être que certains, ben, c'est juste 1% de leur vie qui est touchée par ce thème-là, d'autres on est à 52%, ou et peu importe finalement, Dieu est saint, et vivons un temps où on peut aussi... vivre un temps de sanctification. Je vous invite à vous lever, puis on va prier tous ensemble, je dirais, cette prière, où je formule la prière, puis vous pouvez la reformuler avec moi. Elle suit donc cette idée des quatre R, un petit peu comme quelque chose qui nous conduit, qui nous guide. Hein, voilà. Seigneur, tu connais toutes mes peurs.
Seigneur, tu connais toutes mes peurs.
Même celles dont je ne suis pas conscient.
Même celles dont je ne suis pas conscient.
Viens par ton Esprit Saint me les révéler.
Viens par ton Esprit Saint me les révéler.
Je reconnais que derrière toutes mes peurs, se trouvent toujours des mensonges.
Se trouvent toujours des mensonges.
Je réalise que ces mensonges me poussent à douter.
Je réalise que ces mensonges me poussent à douter.
À douter de ta bonté.
À douter de ta bonté.
De ta souveraineté.
De ta souveraineté.
De ta toute-puissance.
De ta toute-puissance.
De tes promesses.
De tes promesses.
De ta personne.
De ta personne.
Et que cela t'attriste.
Alors, pardon,
Seigneur. Pardon d'avoir péché contre toi.
Pardon d'avoir péché contre toi.
Pardon d'avoir cru au mensonge de l'ennemi.
Pardon d'avoir cru au mensonge de l'ennemi.
Plutôt qu'en tes vérités.
Plutôt qu'en tes vérités.
Tes promesses.
Tes promesses.
Pardon pour mon incrédulité.
Pardon pour mon incrédulité.
Je veux dès aujourd'hui.
Je veux dès aujourd'hui.
Et au nom de Jésus,
renoncer à la peur
et à l'incrédulité dans ma vie.
Et à l'incrédulité dans ma vie.
Merci, Saint-Esprit,
merci Saint-Esprit,
de m'avoir éclairé sur l'intention de l'ennemi,
de m'avoir éclairé sur l'intention de l'ennemi,
sur son stratagème pour me paralyser,
sur son stratagème pour me paralyser,
pour m'empêcher d'accomplir. Et de vivre pleinement ce que tu as en réserve pour moi.
Et de vivre pleinement ce que tu as en réserve pour moi.
Je décide de ne plus le laisser me faire peur.
Je décide de ne plus le laisser me faire peur.
Et me pousser à l'incrédulité.
Et me pousser à l'incrédulité.
Grâce à ton autorité.
Grâce à ton autorité.
Je résiste et je tiens ferme.
Je résiste et je tiens ferme.
À toutes ces attaques. Et je les confronte à la puissance de la vérité libératrice.
Et je les confronte à la puissance de la vérité libératrice.
Je veux croire que tu ne m'abandonneras jamais.
Je veux croire que tu ne m'abandonneras jamais.
Que tu n'iras pas au-delà de mes forces.
Que tu n'iras pas au-delà de mes forces.
Et que tu ne pourvoiras et que tu pourvoiras à tous mes besoins. Pour cela, Père, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi.
Viens augmenter, fortifier,
soutenir ma foi,
qui trop souvent est bien fragile.
Oui, je m'engage avec ton aide
à agir dans la foi et la confiance en toi. La confiance en tes promesses.
La confiance en tes promesses.
Aide-moi à te mettre au centre de mes journées.
Aide-moi à te mettre au centre de mes journées.
De mes préoccupations.
De mes préoccupations.
Et à te donner du temps pour lire ta parole.
Et à te donner du temps pour lire ta parole.
Méditer ta parole.
Méditer ta parole.
Je réalise que je te reconnais, que je te connais encore mal. Alors révèle-toi à moi comme tout à nouveau.
Alors révèle-toi à moi comme tout à nouveau.
Merci Seigneur.
Merci Seigneur.
Car je sais et je crois que tu es fidèle.
Car je sais et je crois que tu es fidèle.
Juste et bon pour me pardonner.
Juste et bon pour me pardonner.
Merci Seigneur.
Merci Seigneur.
Je me réjouis de voir les victoires.
Je me réjouis de voir les victoires,
les pas de foi que tu vas opérer en moi,
que tu vas opérer en moi
par l'action de ton esprit,
par l'action de ton esprit
et pour ta gloire.
Et pour ta gloire.
Merci parce que j'ai cette assurance.
Merci parce que j'ai cette assurance.
Que celui qui a commencé en moi une œuvre bonne,
que celui qui a commencé en moi une œuvre bonne,
on
poursuivra l'achèvement
jusqu'au jour du Christ
Jésus. Jusqu'au jour du Christ Jésus.
Ainsi soit-il.
Ainsi soit-il.
Amen.
Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu.
Ouais. Merci Jésus.
Magnifique.
Merci.
Voilà, merci beaucoup Maxime.
La suite dans un mois, 27 mars. Et puis ça...